Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Pour la première fois, une porte sainte sera inaugurée ce dimanche hors d'Europe. La basilique cathédrale Notre-Dame de Québec ouvre son jubilé, tout un symbole pour l'Amérique du Nord. Vous entendrez l'archevêque de la ville. Le pape François met en garde contre les illusions dangereuses et les pièges à éviter sur Internet. Le Saint-Père recevait les membres du Conseil pontifical pour les laïcs ce samedi. Le Saint-Père qui a également dénoncé l'athéisme pratique de la société actuelle. La dignité de chaque homme et de chaque femme, a-t-il martelé, ne peut être supprimée ni soumise à un pouvoir ou une idéologie. Nous en parlerons dans ce magazine et en fin d'émission, ne manquez pas nos rendez-vous hebdomadaires avec les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Le pape François a fustigé ce samedi matin l'athéisme pratique largement répandu dans le monde contemporain qui propose un modèle erroné de l'homme et de la société. Et il a encouragé les chrétiens laïcs à penser et à agir conformément à l'Évangile et à la doctrine sociale de l'Église, surtout dans le domaine politique. Le Saint-Père recevait une délégation de l'Institut Dignitatis Humanae qui a pour vocation de promouvoir la dignité de l'homme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le compte-rendu d'Olivier Tosserie.
Le pape François s'inscrit dans la droite ligne de ses prédécesseurs Jean-Paul II et Benoît XVI quand il décrit sans complaisance les dérives de la société actuelle. Malheureusement, à notre époque, pourtant si riche en conquêtes et espoirs, il existe des pouvoirs et des forces qui finissent par produire une culture du déchet dont les principales victimes sont les êtres humains les plus faibles et fragiles. Le souverain pontife cite les enfants à naître, les pauvres, les personnes âgées malades, les handicapés, qui risque d'être expulsé d'un engrenage qui se veut performant, coûte que coûte. À la base de cette mentalité, il pointe du doigt l'athéisme pratique qui nie la parole de Dieu. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tout homme et toute femme possède une dignité qui échappe au pouvoir et aux idéologies, insiste le pape François. La parole de Dieu impose des limites à toute hégémonie et donne espérance et réconfort à ceux qui ne sont pas en mesure de se défendre, d'où cet appel aux consciences personnelles et sociales. Si nous laissons la parole Dieu remettre en question notre manière de penser, d'agir, nos priorités, nos choix, alors les choses pourront changer. Le modèle à suivre pour les laïcs engagés, c'est la doctrine sociale de l'Église qui réclame la défense de la liberté religieuse, de la vie à chacune de ces étapes, du droit à un travail décent, de la famille, de l'éducation. Le pape François invite à redécouvrir la portée éthique et sociale du principe de la dignité humaine, fondement de liberté et de justice. Il exhorte les laïcs chrétiens à agir avec cohérence, surtout dans le domaine politique.
Et toujours ce samedi matin, le pontife s'est adressé au Conseil pontifical pour les laïcs, réuni ces jours-ci en assemblée plénière sur le thème « Annoncer l'Évangile à l'ère numérique ». Le Saint-Père juge que la présence de l'Église sur la toile n'est pas inutile, au contraire. Il est indispensable d'y être présent dans un style évangélique. Mais, a-t-il dit, ce n'est pas suffisant. Et surtout, cela ne doit pas empêcher d'aller à la rencontre des hommes et des femmes, blessés ou perdus, dans leur vie de tous les jours, pour leur offrir de vraies raisons d'espérer. L'annonce de l'Évangile a en effet besoin de relations humaines authentiques et directes pour déboucher sur une rencontre personnelle avec le Seigneur. Pour les jeunes, Internet est devenu en quelque sorte un cadre de vie. Les chrétiens doivent y réveiller les demandes du cœur sur le sens de l'existence et y indiquer la voie qui mène à celui qui est la réponse, à savoir Jésus. Ce dimanche, en la solennité de l'Immaculée Conception, le pape François se rendra à 16h place d'Espagne, une des plus belles places de Rome, pour déposer une gerbe de fleurs au pied de la colonne mariale. Chaque année, cet hommage traditionnel attire les foules. Les Romains et les visiteurs se pressent en masse le long des rues du centre-ville parcourues par le cortège papal. L'hommage à Marie se renouvelle ponctuellement depuis le 8 décembre 1857, lorsque Pie IX bénit pour la première fois la statue de l'Immaculée. Et au Canada, ce dimanche, en la fête de l'Immaculée Conception, une porte sainte sera inaugurée à la basilique cathédrale Notre-Dame de Québec, la première paroisse en Amérique du Nord. Elle restera ouverte pendant toute l'année 2014. La cathédrale célèbre en effet ses 350 ans d'existence et les autorités ecclésiastiques québécoises ont obtenu l'autorisation de construire une porte sainte, la septième au monde, la première hors d'Europe, un privilège exceptionnel autorisé par le Saint-Siège. D'autres portes saintes se trouvent à Rome, Ars et Compostelle. L'année jubilaire s'étendra du 8 décembre 2013 au 28 décembre 2014. Un jubilé qui concerne toute l'Amérique du Nord. Écoutez Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec. Il a été interrogé par Charles Lebourgeois pour la télévision canadienne Salles et Lumières.
Ça devrait être et ça va être une invitation pour tous les catholiques et tous les chrétiens d'Amérique du Nord, parce que c'est la première paroisse à être fondée au nord du Mexique et des colonies espagnoles, il y a 350 ans. On estime à plus de 18 millions de personnes qui habitent actuellement sur le territoire de l'Amérique du Nord, qui peuvent dire que leur ancêtre a été baptisé ou s'est marié à la paroisse Notre-Dame. Alors c'est donc dire que c'est une célébration pour toute l'Amérique du Nord, parce que c'est là le berceau de la foi catholique.
Alors, à l'occasion de cet anniversaire, le Vatican vous octroie le privilège d'abriter une porte sainte, la première hors d'Europe, donc la première en Amérique. Quel est le symbole de cette porte?
Eh bien, c'est Jésus qui a dit « Je suis la porte des brebis ». Et il y a des allusions à la porte, beaucoup dans l'Évangile et beaucoup dans la Bible. « Je suis la porte et je frappe, la porte étroite ». En fait, une porte, ça veut dire qu'on peut entrer. La porte sainte que nous avons voulu construire et préparer et offrir à tous les pèlerins, c'est pour dire, ben moi j'ai le goût de continuer à passer par Jésus-Christ. En fait, c'est lui la porte. Alors cette porte dans notre cathédrale sera une porte ouverte pendant toute l'année jubilaire. Elle sera fermée après jusqu'au prochain jubilé, comme les portes à Rome et en Europe. Et vivre et passer la porte, ça va vouloir dire que nous vivons ce pèlerinage de la foi. Nous voulons être renouvelés dans notre foi et passer par Jésus-Christ pour qu'il nous restaure, qu'il nous renouvelle.
Et est-ce que vous pensez donc que ça peut changer quelque chose pour le Québec, pour le Canada même peut-être?
Un pèlerinage, ça change toujours quelque chose, parce que c'est venir à la rencontre de Dieu qui nous attend et qui a toujours des bonnes choses à nous donner. C'est symbolique, hein? C'est la porte d'entrée pour toute l'Amérique du Nord de la foi et nous voulons poursuivre. Ce n'est pas seulement célébrer notre passé, c'est que nous voulons passer par cette porte et continuer de vivre notre foi et d'évangéliser l'Amérique du Nord.
Justement, vous évoquez votre passé. Qu'est-ce qui vous inspire dans les 350 dernières années que vous voudriez prendre et faire fructifier pour l'avenir, pour ces prochaines années?
Écoutez, lorsqu'on regarde notre histoire, ce sont des saints et des saintes qui sont venus, de France surtout, pour évangéliser. Déjà, plusieurs sont des bienheureux, hein, et des saints et des saintes, et aussi des Québécois et des Québécoises. Nous avons une quantité énorme de saints, de saintes, de mystiques, d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie, même dans le martyre, pour l'Évangile, pour l'annonce de cette bonne nouvelle, pour bâtir une société humaine et chrétienne avec les valeurs de la foi. Moi, j'ai demandé au Seigneur dès l'annonce de ces célébrations et l'organisation de ces fêtes, que ce soit pour nous tous, moi le premier, mais toute notre communauté chrétienne d'Amérique du Nord, que ce soit l'occasion d'un renouveau dans la foi, une expérience de conversion, mais aussi une expérience d'envoi à mission. Parce que s'il est vrai que par la porte on entre, par la porte on peut ressortir. Qu'entre des hommes et des femmes qui vont devenir des disciples de Jésus-Christ pour en ressortir des missionnaires pour le monde d'aujourd'hui. Moi, c'est mon espérance.
C'était l'archevêque de Québec, Mgr Lacroix. À Lourdes également, la fête de l'Immaculée Conception aura cette année une connotation particulière à l'occasion du 80e anniversaire de la canonisation de Bernadette Soubirous, proclamée par Saint Pie XI le 8 décembre 1933. Quelques 3500 pèlerins sont attendus dans la cité mariale. C'est le 11 février, jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, que sera célébrée la 22e journée mondiale des malades. Le pape François l'a confiée à l'intercession de la Vierge Marie. Il l'annonce dans un message rendu public ce samedi. Un message qui s'adresse à la fois aux malades et aux personnes qui en prennent soin. Le Saint-Père rappelle aux malades que Jésus porte avec eux le poids de leurs souffrances et qu'il en révèle le sens. Il exhorte par ailleurs les chrétiens à faire preuve de tendresse à l'égard de ceux qui ont besoin d'assistance, à porter l'espérance et le sourire de Dieu dans les contradictions du monde et à faire du dévouement généreux le style de leurs actions. Pour grandir dans la tendresse et dans la charité respectueuse et délicate, il suffit, dit-il, de suivre l'exemple de Marie, la mère de Jésus. Les évêques du Zimbabwe ne cachent plus leur indignation. Depuis la réélection du président Robert Mugabe en juillet dernier, les clivages se sont encore accentués dans le pays alors que la pauvreté ne cesse d'augmenter. L'épiscopat est pessimiste. Selon lui, les problèmes politiques sont destinés à s'aggraver ainsi que leur impact sur la vie de la population. Dans une lettre pastorale rendue publique ces jours derniers, les évêques du Zimbabwe brossent un tableau désolant de la situation socio-économique. L'état des services publics et des infrastructures est désastreux. Santé, éducation, accès à l'eau, transport public, énergie, rien ne marche. L'industrie manufacturière est exsangue. Les sanctions imposées par la communauté internationale ont fini d'enfoncer le pays dans la crise. Un pays qui dispose pourtant d'abondantes ressources naturelles. Sur le même ton, les jésuites du Zimbabwe dénoncent eux aussi dans leur revue la pauvreté et l'injustice qui règnent en maître et ils pointent du doigt la richesse obscène des élites. Au cours de l'année 2013, selon un groupe de défense des droits de l'homme, plus de 100 détenus sont morts de faim et de maladie dans les prisons du Zimbabwe, faute de crédit. Si tu veux entrer dans la vie, thérapie et croissance spirituelle de Philippe Dauté, c'est le livre Pour Dieu que nous vous proposons cette semaine, un chemin thérapeutique pour une vie spirituelle authentique. Poser un regard clair sur sa propre histoire est nécessaire, mais insuffisant. Il convient de la resituer dans la dynamique d'accomplissement spirituel. Philippe Dauté est prêtre orthodoxe du patriarcat de Roumanie. Avec son épouse Eliante, il est co-responsable du centre d'études et de prières de Sainte-Croix en Dordogne. Il répond aux questions de Catherine Aubin.
Philippe Dauté, vous avez écrit un livre. Ce livre s'appelle « Si tu veux entrer dans la vie » et il y a un sous-titre très important, « Thérapie et croissance spirituelle ». Pourquoi ce sous-titre? Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire?
Tout d'abord, « Si tu veux entrer dans la vie » est un passage des évangiles au moment où le jeune homme riche vient interroger Jésus pour entrer dans la vie éternelle. Donc il est très important qu'on puisse noter cette parole de Jésus qui dit « Si tu veux entrer dans la vie ». Ça signifie que nous ne sommes pas dans la vie et que nous pouvons y entrer si nous avons le désir d'y entrer, et ça met en évidence d'abord le désir. Ensuite, le sous-titre « Thérapie et croissance spirituelle » veut reprendre l'articulation entre la dimension thérapeutique et la dimension spirituelle, car le Christ dit « veillez et priez ». Et il est très important de considérer la dimension de la prière, mais sans purification du cœur, sans chemin thérapeutique, nous ne pouvons pas accueillir pleinement la grâce qui nous est donnée à chaque instant. Ainsi, la dimension de la thérapie doit être totalement intégrée dans le chemin chrétien, et c'est ce qu'il était dans les premiers siècles, dans le premier millénaire, en particulier chez les pères du désert d'Égypte. La connaissance de l'âme et toute la dimension thérapeutique faisaient partie du chemin spirituel. Cette dynamique intérieure de transformation et de purification était considérée comme essentielle pour pleinement accueillir la grâce que Dieu fait rayonner sur tous, car Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les impies. C'est dire que la grâce rayonne pour tous, mais nous ne sommes pas tous dans cette disponibilité à la grâce ou cet accueil de la grâce, d'où cette importance thérapeutique.
Et comme vous le soulignez dans votre livre, la psychologie ne commence pas avec Freud, elle commence bien avant.
Voilà, et donc c'est rappeler qu'au premier millénaire, et la dynamique thérapeutique était une évidence. Il s'agissait autant, évidemment, d'ouvrir son cœur à Dieu par la prière que de purifier son cœur, ce miroir de l'âme, afin de laisser vivre en nous ce Dieu qui ne cesse de nous solliciter et qui veut naître en nous.
De même qu'est une évidence que la vie spirituelle se déroule dans un corps. Et c'est là-dessus aussi que vous insistez dans votre livre. La première partie de votre livre nous invite à retrouver la source, le cœur de notre être.
Et le cœur, c'est le centre du corps, de l'âme et de l'esprit. Centre du corps aussi, nous sommes dans une tradition de l'incarnation et il est très important de rappeler que le corps est le temple du Saint-Esprit. C'est dans le corps que nous vivons l'expérience intérieure, c'est dans le corps que nous vivons le chemin de transformation et c'est dans son corps, sur la croix, que le Christ a dit « tout est accompli ». L'accomplissement du chemin humain se fait dans le corps.
Et vous insistez aussi beaucoup, dès le départ, sur l'importance de la relation.
Absolument. C'est important de voir que dans les évangiles, Jésus s'implique dans les relations. Dès que quelqu'un le sollicite, il est totalement tourné vers cette personne qui le sollicite et amène la personne qui est en face de lui à être dans la confiance. Et ensuite, il pourra conclure la relation vis-à-vis d'un malade, par exemple, d'un infirme, de quelqu'un qui est en difficulté, par cette parole « Va, ta foi t'a sauvé ». C'est-à-dire cette foi qui s'est éveillée au sein de la relation et qui fait surgir justement cette capacité par la relation d'une guérison, d'une relation de confiance, pour dire que foi et confiance, en grec, c'est le même mot.
Philippe Deuté, auteur de l'ouvrage « Si tu veux entrer dans la vie, thérapie et croissance spirituelle ». Et c'est l'heure de retrouver, comme chaque semaine, le père Pascal Montavie pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 8 décembre, le deuxième de l'Avent. C'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 3, versets 1 à 12. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. »
L'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent nous propose la figure de Jean-Baptiste pour nourrir notre méditation. Jean-Baptiste est le précurseur, celui qui prépare la venue du Messie, prêche la conversion et annonce le baptême dans l'Esprit Saint. Voyons plus précisément la portée de ce message. Tout d'abord, Jean-Baptiste accomplit la prophétie d'Isaïe. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route ». Avant même sa naissance, dans le sein de sa mère, Élisabeth, Jean-Baptiste avait tressailli de joie à l'approche du Seigneur. Sa mission est la suivante, reconnaître le Messie et témoigner de sa venue parmi les hommes. Mais si Jean-Baptiste reçoit un appel et une grâce hors du commun, il nous montre aussi l'exigence que sa mission implique. Il va dans le désert et vit comme un ascète, il mourra en martyr. Par sa vie, Jean le baptiseur nous montre le sens de notre baptême. C'est avant tout une grâce, celle de recevoir gratuitement le don de la foi lors du rite du baptême. C'est ensuite entrer dans un chemin de conversion et témoigner de l'amour infini de Dieu. Jean-Baptiste est connu pour ses paroles dures à l'égard des pharisiens et des sadducéens. « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit qui exprime votre conversion et n'allez pas en vous-même vous dire « Nous avons Abraham pour père ». Jean-Baptiste dévoile une erreur grave dans l'attitude des pharisiens. Ces derniers pensent que parce qu'ils sont fils d'Abraham, cela leur suffit pour être justes. Déjà, le prophète Jérémie reprochait au peuple de croire que Jérusalem était inattaquable en raison de la présence du temple où Dieu réside. L'histoire a montré que le temple fut détruit par deux fois. De la même manière, nous pourrions croire que notre baptême suffit et que le fruit qu'il donne importe peu. Mais le Seigneur nous invite à plus, à vivre pleinement toutes les réalités que nous ouvre le baptême. Enfin, Jean-Baptiste annonce un autre baptême. « Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la conversion. Mais celui qui vient derrière moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Jean-Baptiste sait qu'il n'est pas le Sauveur, il prépare seulement sa venue. Celui qui baptise dans l'Esprit Saint, c'est lui qui sauve. Ce baptême dans l'Esprit Saint renvoie au sacrement que nous recevons généralement peu après la naissance. Dans la Bible, il renvoie aussi à une effusion du Saint-Esprit qui entraîne une conversion radicale. Les exemples ne manquent pas. Il suffit de penser à la conversion de Paul ou à celle de Corneille, le centurion romain. Il s'agit alors d'une expérience puissante de rencontre avec Dieu, une expérience qui bouleverse l'être tout entier de celui qui découvre le Seigneur, ce qui explique bien l'image de baptême dans le feu. En ce temps de préparation à la grande solennité de Noël, demandons au Seigneur d'être perméable à son enseignement, à ses paroles, qu'elle pénètre le fond de notre cœur, tout comme celle de Jean-Baptiste attirait les foules de Jérusalem, de la Judée et de toute la région du Jourdain.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Bon dimanche à tous.